Interview.
10 voix pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Joël Miachon. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Joël Miachon, je vous ai déjà reçu plusieurs fois pour nous annoncer les programmes des nouvelles du comte de Bourdeaux. Mmh. Et la dernière fois, remonté en 2019, en octobre, pour nous présenter Ritali à l'époque.
Voie d'exil. Voilà, voilà, voilà.
Et donc, depuis, le Covid est advenu, a tout bouleversé. Et d'abord, qu'en est-il du festival du comte de Bourdeaux ?
Eh bien, en fait, en 2020, nous avons fait une formule très légère en itinérance, avec un nombre de places limitées. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Mais bon, c'était très décevant par rapport à notre projet initial. Mais on a tenu le coup, on a résisté en quelque sorte à Bourdeaux et autour, sur le territoire autour de Bourdeaux. Et nous avons tenu ensuite Voie d'exil fin septembre, début octobre, avec une Adulfi, essentiellement Adulfi, mais aussi à Bourdeaux et à Cray, puisque nous on avait une grande séance de cinéma. Et en fait, ça a été un beau succès avant le confinement suivant. Et malgré les difficultés de réalisation. Et puis, ben, ma foi, en ce moment, on est sur le projet du festival 2021, qui serait du 28 juillet au 7 août, avec un certain nombre de difficultés, mais il y aura un beau programme, dont je viendrai reparler en temps utile.
Et on en parlera peut-être voilà. À la fin de cette émission, de nouveau. Mais vous êtes ici aussi pour nous parler de deux ouvrages que vous avez écrits et qui sont en vente à partir d'aujourd'hui. On peut les trouver à la librairie Mosaïque de Dieppe, pour commencer. Oui. Alors, un qui s'intitule « Les oiseleurs d'images » aux éditions Récits Miroirs. Ce sont des livres plutôt... léger,
oui. Hein,
mais non dénué justement d'intelligence, hein, on peut le dire aussi. Et un autre qui s'intitule « Regard », édité chez Eddy Livre, et donc présenté comme un roman d'aventure, mais qu'il ne l'est pas en somme. Hein, on reviendra là-dessus voilà. Aussi. Alors, cette envie d'écrire vous est venue certainement à cause du Covid.
Ah non, non, je vous précise tout de suite. Non, non, mon envie d'écrire est très ancienne. J'ai été enseignant en Bourgogne essentiellement, mais aussi à l'étranger, en Algérie, en Tunisie, et puis un moment aussi dans le sud-ouest de la France, en Occitanie. Et surtout, très longtemps, en Bourgogne, au Creusot, très précisément. Et en fait, c'est une série de circonstances personnelles et puis de relations avec les uns et les autres et de mes lectures. Et quoi qu'étant enseignant de sciences, sciences de la vie et de la terre, j'ai à un moment eu envie d'écrire. C'est-à-dire en fait de m'adresser aux gens, aux lecteurs, aux autres, pour partager avec eux des idées, des sensations, des sentiments. Voilà. Je pense que je ne suis pas du tout exceptionnel dans ce genre-là, c'est beaucoup d'écrivains en sont là. Et puis, petit à petit, j'ai essayé d'écrire. J'ai eu beaucoup de difficultés à me faire publier. Et puis, j'ai abandonné. Et arrivé en retraite, plus tard, dans la vallée de la Drôme, je me suis remis. Et j'ai repris des textes plus anciens que j'ai remis, je dirais, un peu au goût du jour, pour certaines expressions. Mais voilà, mais avec des sujets qui, de toute façon, étaient des sujets très, très généraux d'actualité, liés à la situation sociale ou à des découvertes scientifiques. Voilà, donc c'est ancien, ma volonté d'écrire. Voilà. Et il est vrai que le Covid et le confinement m'a permis de me replonger dans un grand texte qui est actuellement chez une quinzaine d'éditeurs et qui est différent d'ailleurs de ce qui est de ce qu'on a aujourd'hui, de ce que vous avez aujourd'hui devant les yeux, qui est un roman. Et ça, le Covid m'a aidé pour ça. Enfin, entre guillemets, c'est peut-être dommage qu'il y ait eu le Covid. Mais je crois que je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à écrire pendant cette période.
J'imagine. Alors, ce livre qui s'intitule « Les oiseurs de l'image »,« Les oiseleurs d'image », comment peut-on le définir dans sa teneur ?
Les oiseleurs d'image, c'est une réflexion sur, sur le rapport de l'écrit et de l'image et des images très particulières qui sont les images des mondes virtuels. Il existe maintenant en vente à la Fnac, par exemple, ce qu'on appelle des casques, des lunettes d'imagerie virtuelle et qu'on alimente en images essentiellement, d'ailleurs avec les smartphones en ce moment, mais enfin ça pourrait être différent. Et c'est quelque chose dont j'ai pris connaissance il y a très longtemps et qui m'avait à l'époque beaucoup frappé. Qu'on puisse se plonger dans un monde qui n'est pas autour de nous, qui est complètement artificiel, mais s'y plonger vraiment, pas simplement parce qu'on regarde un écran. Et il m'est arrivé il y a quelques années d'ailleurs d'en faire l'expérience, entre autres à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, où il y avait un atelier. Et en fait, c'est très étrange parce que on n'est plus dans le monde réel, mais quand même, ce qui est autour de nous, ça paraît comme si ça l'était réel. Donc, l'un des sujets des oiseleurs d'images, c'est cela, c'est comment des images virtuelles, comment on peut rentrer dedans et comment on pourrait essayer de on peut vivre des petites expériences à l'intérieur de cela.
Je me souviens du lancement, au début des années 2000, d'une application qui s'appelait Second World, justement, un monde virtuel à ceux qui s'y inscrivaient. Par curiosité, j'y suis retourné l'année dernière pour voir comment ça avait évolué. Il n'y a eu aucune évolution dans l'aspect esthétique, mais même dans les moyens techniques, ça a mal vieilli quelque part. Mais est-ce que vous vous êtes intéressé sur ce domaine du monde virtuel et quelle en est l'actualité, si vous êtes un petit peu féru de ça?
Sur l'actualité, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose parce que je sais que maintenant, c'est devenu beaucoup plus commun. Très honnêtement, je n'ai pas acheté ce genre d'appareil, même s'il me passionne un peu littérairement. Hein, ça vient dans d'autres choses que j'ai écrites également. Je pourrais pas vous répondre là-dessus.
Par contre, on peut approcher aussi les réseaux sociaux, hein, qui sont très problématiques actuellement. Ne serait-ce que le réseau le plus connu, la marque bleue, développe quand même quelque part un monde virtuel. On ne s'y présente pas forcément tel qu'on est sur ce genre de site, et on exprime des idées qui peuvent être juste celles d'un instant, à un moment, mais qui laissent une trace et donc identifie ce qu'est la personne sur son profil, par exemple. Et est-ce que ça aussi, c'est déstructurant pour une société ?
Ça, c'est sans doute, à mon avis, déstructurant, en effet, et surtout déstructurant sur la réalité du contact avec l'autre, hein, de la parole. Alors, je ne parle pas des masques en ce moment, hein, qui nous posent de gros problèmes dans la relation, mais en particulier, on sait parfaitement, et comme vous savez, je fréquente beaucoup les milieux du conte, dans la parole, dans la relation par la parole, c'est 30%. Le non-verbal, le visage, les gestes, ça fait partie aussi de la relation. Et quand on est sur les réseaux sociaux, que très honnêtement, je fréquente très peu, voire pas du tout, mais j'en entends beaucoup parler, j'ai du membre de ma famille qui s'y adonne beaucoup. Donc, on n'est pas dans la réalité, on est effectivement dans une sorte de virtualité. Et qui est, qui à mon avis pose de gros problèmes. Voilà.
Débute cet ouvrage, donc Les Oiseleurs d'images, par trois citations hein, d'auteurs, celle de Jacques Lacarrière, Christian Bobin et Jean-Pierre Siméon. Pourquoi ces trois auteurs ?
Alors Jacques Lacarrière, tout simplement parce que c'est en quelque sorte une de ses phrases là, dans un livre qui s'appelle Sourate, qui m'a donné le titre de l'ouvrage. Lui écrit « Oiseleur du temps ». C'est la seule définition que j'oserais donner de l'écrivain. Pour l'espace, voyez les peintres et les sculpteurs. Pour l'espace-temps, les musiciens. Et moi, je me suis dit, pour l'image, voyez les photographes et les cinéastes. Voilà. Et les gens qui, justement, travaillent sur ces images fausses. Voilà, entre autres, tous les systèmes holographiques. Hein, tous les hologrammes, et c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai beaucoup basé les choses. Voilà. Sur Christian Bobin, tout simplement parce que Christian Bobin, il se trouve que j'ai eu la chance de le connaître, et parfois d'ailleurs on communique encore. Et en fait, le premier récit que j'ai écrit il y a fort longtemps, c'est lui qui m'avait dit de continuer à écrire, alors ça fait plaisir, surtout maintenant. Et je vais lire la petite citation. « Il y a deux choses en nous. L'amour et la solitude, elles sont entre elles comme deux chambres reliées par une porte étroite. Écrivant, on va de l'une à l'autre incessamment. » C'est un petit recueil assez ancien de Christian Bobin qui s'appelle « Lettres d'or » et qui est absolument magnifique et qui m'a aussi beaucoup guidé dans ma façon d'écrire. Et puis quant à Jean-Pierre Siméon, eh bien ça c'est une découverte un peu plus récente. Et poète, grand poète, qui a été longtemps président du Printemps des Poètes. Et donc j'avais lu il y a quelque temps ce petit texte qui est très lié, je pense, à notre situation actuelle. Sans doute, oui, nous aimons trop nos rêves, leur façon d'aube définitive, leur paraphrase grevée d'étoiles. Mais quelle foi autre tiendrait les hommes aux pieds lourds sur le devant de l'abîme ? Il est vrai qu'on est un peu au devant de l'abîme, quoi. Et il faut bien avoir des rêves. Et des rêves, dans ce livre, il en est question. Voilà.
Les oiseleurs d'images, c'est une formule que vous avez écrite ou vous l'avez empruntée ?
Ah ben donc j'ai emprunté ce terme d'oiseleur à Jacques Lacarrière. Mais l'oiseleur, c'est celui... qui capture les petits oiseaux pour les vendre, voire pour les manger. Et en fait, oiseleur d'image, eh bien, quand on prend une photo avec son smartphone ou avec un appareil photo, eh bien, on capture une image, on capture l'image de quelqu'un, on capture, voilà, on la met en boîte. Et tout ce qui court dans ce petit récit, c'est ça, hein. C'est comment on peut entrer en relation avec quelqu'un en le photographiant ou alors en parlant de lui ou d'elle, parce que bon, il s'agit essentiellement de il et de elle, par les images autant que par l'écrit. Voilà. Et quel rapport entre les deux ? C'est l'essentiel du livre, avec quand même une petite référence particulière. Un tableau de Picasso, c'est une chose qui est chez moi très ancienne, un tableau très énigmatique qui s'intitule « La vie », qui est de 1903, de la période bleue de Picasso, donc encore très figurative, et qui est un tableau auquel Pablo Picasso n'a jamais donné de titre. Le titre lui a été donné par une revue de Barcelone quelques années après qu'il ait été exposé une première fois. Et c'est assez énigmatique parce que voilà, il y a une série de personnages, dont un couple nu qui est dans une situation un peu de tendresse, mais un peu voilà, ils sont inquiets visiblement. Et puis il y a une femme et un enfant, et puis d'autres personnages en arrière-plan dont on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est un cycle parce qu'il y en a une qui est toutes en train de mourir, on ne sait pas. Voilà. Et ce tableau m'a toujours beaucoup, pour des raisons personnelles, et puis en tant que tel, bon, j'ai eu la grande chance de le voir il y a 2 ans en vrai au musée d'Orsay à Paris.
Il était quelle taille ce tableau
d'ailleurs ? Ah bah, il fait en fait, le véritable tableau fait de 2 mètres par 1 mètre 60. C'est pas... Bon, dans le livre, je l'ai reproduit à la fin du livre, mais c'est un très grand tableau. Il était reproduit d'ailleurs à Orsay avec ses esquisses à côté. Et c'est absolument passionnant. D'autant que le personnage masculin, dans un premier temps, c'était le peintre. Et puis en fait, il a remplacé le peintre par un de ses meilleurs amis qui s'était suicidé un an avant.
Et dont il a fait le portrait mortuaire oui, sur son lit.
Tout à fait.
D'ailleurs, quand vous le décriviez, ce tableau, avant d'avoir vu l'image, j'imaginais déjà ce tableau. Hein, je l'avais en tête. Vous faites référence à un tableau qui est un objet. Aujourd'hui, le monde est plutôt dans le monde virtuel.
Oui.
Que devient l'image dans l'aspect réel ?
Voilà, justement, ce tableau qui est donc de plus figuratif, il nous interroge. Il nous interpelle en ce moment parce qu'il raconte une histoire, hein, comme tous les tableaux. Chacun a sa propre histoire en fonction de cela. Et c'est un tableau qui, pour moi, dans ce livre, est un peu un fil conducteur. Puisque l'héroïne, à un moment donné, le découvre dans une exposition et elle en est fascinée. Et ça va porter une grande partie du récit. De la même façon que il y aura dans le livre deux personnages, deux enfants qui tiennent le fil, puisque, en fait, j'ai écrit Récit miroir, puisqu'on commence avec deux personnages sur une plage. Et puis, en quelque sorte, on a l'impression qu'on les abandonne, mais en fait, ils sont en miroir dans le récit suivant. Et les deux enfants sont là tout le temps. On les croise régulièrement, ils apportent. La petite fille a toujours une fleur à la main et le garçon a toujours un petit tube d'eau savonneuse avec laquelle il fait des bulles. Et tout le long de l'ouvrage, les héros les rencontrent. Voilà.
Récit miroir, c'est un terme que vous définissez comment ?
C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je pose deux personnages et en fait, j'en ai deux autres plus tard, qui même pour l'un d'entre eux va sans doute changer de nom, mais en fait, ce sont toujours les mêmes. Donc, ils sont un peu en miroir, un peu comme ces miroirs, vous savez, qui dans un ascenseur de chaque côté, on se voit indéfiniment.
Est-ce qu'on peut parler aussi de pendant, comme pour la peinture ? Où oui. On sont exposés vis-à-vis de peintures sur un thème,
oui.
Mais qui sont antagonistes.
Mais c'est ça, tout à fait, oui. C'est le même genre de procédure, de processus, voilà.
Et puis nous passons à l'autre ouvrage, Regards. Vous nous décrirez un peu ce que sont ces regards. Et donc ça, c'est édité chez Edilivre, donc un ouvrage à compte d'auteur, auto-édité. Oui. Qu'en est-il alors de cet aspect de l'auto-édition à vos yeux ?
Alors d'avoir une petite précision, Les oiseleurs d'images est une véritable auto-édition, c'est-à-dire que je l'ai pris en charge moi-même entièrement. Et je l'ai fait imprimer à l'imprimerie du Crétois à Cré, qui m'a fait un très beau petit ouvrage. Mais en fait, c'est l'auto-édition. Et en fait, l'édition à compte d'auteur, quand vous écrivez quelque chose et que vous avez envie de l'envoyer à des éditeurs, que ce soit des nouvelles ou des romans, vous cherchez sur Internet. Les éditeurs sont légion, très nombreux. Alors, il y a tous ceux qu'on connaît très très bien, hein, Robert Laffont, Stock, Seuil, les éditions de l'Olivier, ceux de Arles. Et tous ces gens-là, en général, vis-à-vis des auteurs qui ne connaissent pas, ils sont très prudents. Ils ne prennent pas de risques. Voilà. Mais il faut insister. Hein. On m'a toujours dit qu'il fallait insister, alors j'insiste. Mais à un moment donné, quand on a vraiment envie, puis je prends quand même un peu d'âge, quand on a vraiment envie d'être édité, on se laisse des fois tenter par ce qu'on appelle des éditeurs à compte d'auteur. Et qui sont moins connus du grand public, encore que l'un d'entre eux, je l'ai appris dans mes recherches, l'Armatan, qui est quand même un très grand éditeur, c'est un éditeur à compte d'auteur, qui édite d'ailleurs beaucoup de livres scientifiques, de réflexions, etc., mais de gens qui publient en général dans des conditions professionnelles. Donc, du point de vue... Voilà. Parce qu'un compte d'auteur, ça veut dire que vous payez. Hein, vous prenez en charge l'édition. Alors, plus ou moins, certains éditeurs à compte d'auteur, dont je n'ai pas le nom, mais de toute façon, ce n'est pas la peine, demandent carrément des avances de 1500 euros ou 2000 euros pour pouvoir se mettre au travail. Bon, alors, Edilivre, c'est beaucoup plus modeste du point de vue de l'investissement de l'auteur. Il faut quand même qu'on achète ses propres livres. Mais surtout, le gros problème, c'est la diffusion. Alors la diffusion, c'est quand même chez eux le parent pauvre. D'ailleurs, j'ai deux libraires là récemment qui m'ont dit que de toute façon, c'était des gens pas très sérieux pour les diffusions et que chez eux, ils commandaient jamais. Et alors, ce qui m'amène donc, moi, à acheter mes livres, à réduction, bien sûr, heureusement, et à les diffuser chez les libraires. Voilà. Donc, ceci étant, ils font un travail sérieux. Et une amie qui est aussi une toute petite maison d'édition qui est à Heure, aide en cours, m'avait conseillé Edilivre. Elle me dit, parmi tout cela, là, tu peux essayer. Donc, je l'ai fait. Bon, je l'en remercie parce qu'en fait, finalement, c'est quand même intéressant. Et j'avais une série de nouvelles qui traitait de ce rapport entre le regard qu'on porte sur quelque chose, entre le regard, notre regard et la chose regardée, ou la personne regardée, hein, l'objet du regard. Parce que j'ai toujours pensé qu'entre les deux, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se passe quand on regarde un tableau, quand on regarde un homme, une femme, quand on regarde un objet ou un paysage. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et il y a une transformation. Alors bien sûr, pas forcément de l'objet. Alors quand il s'agit d'une personne, forcément, il y a sans doute une transformation, puisqu'on se regarde, on se découvre. Et pendant très longtemps, des années, j'ai écrit des petites nouvelles comme ça. Et quand j'ai voulu les rassembler, j'ai choisi celles qui correspondaient à cette préoccupation. Qu'est-ce qui se passe entre toi et moi, entre ce sujet et moi, ou celui qui regarde.
Cet ouvrage, donc, ce sont des nouvelles. Pourquoi cette option de nouvelles? Ça vous paraît plus important d'écrire des textes courts, mais qui peuvent amener beaucoup plus de signification?
Oh, c'était une option à un moment. J'avais écrit une première fois, il y a longtemps, un très grand roman. Et puis, des sujets d'actualité, des situations personnelles m'ont amené à écrire des choses courtes. Voilà. Que d'ailleurs, j'aurais pu développer, peut-être. D'ailleurs, certaines, j'ai essayé de les développer, mais ce n'est pas toujours simple. Voilà. Et en fait... j'ai eu aussi un rapport important à une période au cinéma. Je l'ai toujours parce que je vais beaucoup au cinéma, quand ils seront ouverts. Et on appelle de nos voeux qu'ils s'ouvrent à nouveau. Et j'avais même suivi une petite formation sur la lecture filmique. Et en fait... là, on a vraiment, c'est un lieu privilégié, justement, de ce regard. Hein. Moi, j'ai cité dans ce recueil de nouvelles cette citation d'André Bazin, qui est un très grand critique de cinéma. Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Et c'est, quand on y regarde bien, c'est bien vrai. Hein. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher dans un film ce qu'on a besoin de voir, ce qu'on a envie de voir.
C'est pour ça que j'aime bien... je préfère plutôt des films américains qu'européens, parce que je vis dans une société européenne et je connais un peu le quotidien, la société. Et j'ai envie de découvrir autre chose, même au niveau du Japon. C'est un développement...
Ah, oui, oui,
je veux dire, on est dépaysé. C'est plus cette recherche. Et puis, il y a aussi cette soif et cet engouement pour le public, pour la science-fiction, qui permet encore de plus... échapper du quotidien aussi, non ?
Oui, oui, oui. Oui. Ah ben, la science-fiction, ça a été pour moi des moments d'inspiration. Enfin, j'ai écrit plusieurs nouvelles, enfin, des récits assez longs, en fait, de science-fiction, dont certains sont actuellement chez des éditeurs. J'attends des réponses. Mais sur des choses qui sont vraiment de la science-fiction. En fait, On parlait tout à l'heure des auteurs d'images. Là, on est, il y a un peu de science-fiction dedans, mais surtout, on est plutôt dans quelque chose qui pourrait se passer dans pas longtemps, quoi.
C'est de l'anticipation.
C'est de l'anticipation plutôt. Et dans Regard, il y a deux trois textes aussi qui sont de l'anticipation, dont un qui est également autour de ces lunettes, de ces casques de vision virtuelle. Il y en a une qui s'appelle Effet secondaire et qui est dans ce domaine-là aussi d'une autre, toute autre façon. Voilà.
À quel public s'adressent ces ouvrages ?
À tout public. Je dirais, alors évidemment, c'est peut-être pas forcément à des enfants, mais à des publics adolescents ou grand public. À tous les publics qui veulent découvrir un univers ou l'univers d'un auteur qu'ils ne connaissent pas. Et voilà, c'est... Sur Regard, j'ai deux nouvelles à base d'un film. Voilà. Centrées sur le cinéma. La première, que j'ai intitulée Lunettes noires, et qui utilise... qui utilise un film très très connu, très ancien. Voilà. donc, qui utilise d'une part les Enfants du Paradis de Marcel Carné et Jacques Prévert, et aussi un film de Godard qui s'appelle Le Mépris. Voilà. Et en fait, c'est une réflexion sur comment on réutilise l'image des autres ? Comment on utilise l'image des acteurs ? Puisque là, il s'agit à un moment donné d'une actrice qui s'interroge sur le réalisateur qu'elle voit toujours avec des lunettes noires et elle se demande pourquoi. Quand on est réalisateur de cinéma, comment on peut porter des lunettes noires, même pendant le tournage ? Et en fait, c'est quelqu'un qui semble imiter pour elle des films qu'elle a déjà vus. Voilà, donc elle s'interroge tout le long de la nouvelle, mais alors évidemment, j'en dis pas plus parce que sinon, je vais déflorer le sujet.
Dans cette écriture, est-ce qu'il y a aussi une part d'influence de tous ces publics, de tous ces spectacles que vous avez rencontrés avec l'organisation de ces nouvelles du Comte de Bourdeaux ?
Oh ben, sans doute. Sans doute, mais alors ça, je peux pas. Effectivement, sans doute. Entre autres, au sujet de la forme, parce que quelquefois, on me dit, j'ai un peu tendance à faire certains textes avec comme des contes à tiroirs. C'est-à-dire, on rentre dans une histoire, on en parle d'une autre, on en parle d'une autre, et puis finalement, on revient au point de départ. Ce qui est assez courant dans l'organisation d'un récit, soit dit en passant, ça n'a rien d'extraordinaire, ça ne tient pas qu'au conte.
Une sorte de cabinet de curiosité ?
Ah ben un petit peu, hein, le Regard, c'est un petit peu ça, hein, parce que il y a y compris un texte que j'ai écrit il y a quelques années, auquel je tiens beaucoup, qui j'ai intitulé « Le regard de l'enfant », et qui est quelque chose qui est lié à mes préoccupations, à l'une de mes préoccupations sur les risques de l'arme atomique. Voilà. Et ça fait partie de tout un tas de choses qui sont dans mes obsessions, comme tout auteur, comme toute personne. Toute personne a... il y en a qui passent par l'écrit, il y en a qui passent par l'image pour leurs obsessions, puis il y en a qui gardent ça en eux, et puis qui en discutent avec les voisins, avec les copains, avec les amis. Et voilà, mais on a tous les choses qui pèsent lourd. Et là, je dois avouer, pour avoir beaucoup agi à une époque, dans les années 80, avec un collectif de gens pour la paix, que les risques d'erreurs et d'utilisation de l'arme atomique à notre époque sont des choses aussi catastrophiques que les problèmes du climat. J'irai pas plus ni moins, mais qu'on a tendance un petit peu à oublier. Alors, ce regard de l'enfant, il n'est pas dit quelque part qu'il y a explosion nucléaire, mais en fait, le lecteur verra bien ce qu'il en pense.
Je voulais vous demander donc l'actualité des nouveaux contes de Bourdeaux. Vous abordiez un petit peu une probable programmation pour cette année. Qu'en est-il a priori de ce qui se produira?
Je ne peux pas en dire grand-chose maintenant, simplement que on en a mis le titre, même si on va reporter pratiquement tout ce qui était prévu l'an passé. Le titre a changé et on l'a intitulé « Entrée, la porte est ouverte ». Non, « Entrée, c'est ouvert ». Voilà, parce qu'il y a besoin d'ouvrir les portes. En grand.
D'ailleurs, c'est ce que le gouvernement prescrit, hein, d'inviter le public à sortir, prendre l'air, plutôt que de rester enfermé.
Oui, pas partout.
Non, mais...
pas partout.
Oui, c'est ça. Mais il paraît que c'est plus sain de pouvoir sortir dans la limite de 10 km, quand même.
C'est quand même une belle découverte que finalement, on puisse... voilà. On sait très bien que l'un des problème qui était posé par le fait que les gens aillent en forêt ou en montagne, etc. C'était essentiellement le fait de ne pas surcharger les services d'urgence. Voilà, parce qu'en fait, la question de la transmission des virus dans la forêt de Soues, par exemple, c'est une absurdité. On a interdit la fréquentation de la forêt de Soues pour des raisons qui étaient liées effectivement à la question des services d'urgence. Et ne pas mobiliser quelqu'un qui se casse la jambe, il faut bien s'en occuper. Voilà. Ceci étant, il y a une sorte, moi je lis clairement, une sorte d'absurdité à dire que dans l'extérieur, moi je veux bien en ville où il y a beaucoup de gens sur un marché, je comprends bien, hein, ça c'est évident. Mais à partir du moment où on se balade, sortez. Voilà, sortons. et surtout, essayons de rouvrir nos lieux de culture. Cinéma, théâtre, musée, qui sont indispensables déjà pour croiser des gens, pour croiser des regards. Pour échanger des points de vue et puis pour que la culture vive. Voilà.
Dans l'univers des contes que vous promouvez, on peut dire, est-ce que dans les lectures, des recherches ou des auditions, est-ce qu'il y a une thématique qui se rapporterait un peu à ce qui se passe aujourd'hui avec cette contrainte sanitaire, cette pandémie? Et est-ce que vous, ça vous inspire quelque chose pour une écriture prochainement?
Sans doute qu'un jour ça viendra, mais là pour tout de suite, non. Encore que. Dans les oiseleurs d'images, je précise d'ailleurs que... Bon, c'est pas tout dans l'ordre, tout ça. J'en ai fait avec deux personnes, j'en monte un petit spectacle de lecture à voix haute d'une partie de ce texte, les oiseleurs d'images. Et la personne qui nous a fait travailler à un moment nous a dit « Mais c'est incroyable parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui, parce que dans tout le livre, régulièrement... Les héros se font interrompre par une radio qui annonce de mauvaises nouvelles. Et même à un moment, restez chez vous, branchez-vous, faites attention. Voilà. Alors en fait, il s'agit essentiellement on a peur. C'est une actualité qui a peur de l'invasion de pauvres. Voilà. Pour une part, il en est déjà question sur ce texte dont la première édition, je l'ai écrit, il y a une vingtaine d'années au moins. Donc, voilà. Mais est-ce qu'il y aura un écrit dans quelques temps sur notre situation actuelle? Peut-être. Dans les contes, c'est autre chose. Bon, j'entendais Fabrice Luchini l'autre jour qui a dit que ce fois des fables de La Fontaine, dont les animaux malades de la peste. Bon, ça a été beaucoup dit et redit. Voilà, c'est pas un conte, mais c'est un récit qui dit beaucoup de choses.
Vous aviez rédigé d'autres livres
avant? Oui, j'en ai deux qui sont chez des éditeurs.
Et voilà. Qui s'intitulent
Alors, il y en a un qui s'intitule Sphère, qui est très très lié justement à ces questions de risque nucléaire, mais pas que. Hein, aussi à d'autres choses, qui est très lié aussi. À cette idée que peut-être un jour on croisera des gens qui viennent d'ailleurs. Voilà. Parce que là aussi, ça a été une de mes sources d'inspiration.
Et voilà. L'autre ouvrage ?
Et alors un autre qui est entièrement un ouvrage sur des récits de science-fiction et sur soit des choses qui pourraient paraître un peu problématiques, et entre autres la création de lieux de développement hors du corps maternel, hein, donc d'utérus artificiel, ou alors j'écris aussi un texte sur une façon dont on pourrait préserver ailleurs des arbres, des plantes qui n'arriveraient plus à se développer sur notre terre ravagée. Alors c'est pas très drôle, mais il faut de temps en temps remuer un peu les choses. Voilà, alors ces récits-là, quand ils seront publiés, je viendrai en parler.
Eh bien, Joël Miachon, donc, je vous remercie pour votre déplacement à Aire du Bois, parce que vous venez de loin. Hein, ça fait,
De Cray, oui.
Ah, je pensais que vous veniez de Bordeaux, je comptais une heure de route pour venir nous parler.
Non, j'habite à Cray.
Et donc, pour ces deux ouvrages, dont l'un est intitulé « Regards » au pluriel, chez Edilivre, et ensuite Joël Miachon.
En auto-édition.
Les oiseleurs d'images en auto-édition. Voilà. Et tout ça, vous pouvez les découvrir à la Librairie Mosaïque.
Voilà, et ou les récupérer aussi sur Internet.
Hein. À quelle adresse ?
Regard est à récupérer sur Internet à l'adresse d'Edilivre, et puis sur le site de la FNAC, sur le site de la librairie de Citre. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut toujours les commander. Ils ne sont jamais en rayon. Et ça, c'est le problème. Mais on en a parlé tout à l'heure, n'y revenons pas. Merci à RDWAT de m'avoir accueilli pour parler de ce qui me tient à cœur autant que le conte.
Bonne soirée aussi.
Bonne soirée.
Au revoir.